philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 26 avril 1988.
Continuons de regarder comment Descartes regarde le domaine de la quantité. Si l'étendue est immédiatement saisie par l'imagination, la superficie est ce qu'atteignent nos sens externes. Je me persuade, affirme Descartes, qu'il n'y a rien autre chose par quoi nos sens soient touchés que cette seule superficie. Oui, les sensibles communs, les sensibles propres sont rejetés comme quelque chose de purement subjectif. Je me persuade, c'est intéressant de dire, il fait un petit effort de se persuader qu'il n'y a rien d'autre chose par quoi nos sens soient touchés que cette seule superficie qui est le terme des dimensions du corps qui est sentie ou perçue par les sens. Car c'est en la superficie seule que se fait le contact. Contact se fait par la superficie, les sensibles propres sont évacués. Et il précise que la superficie est seulement ce terme que l'on conçoit être moyen entre chacune des particules de ce corps et les corps qui l'environnent et qui n'a point d'autre entité. La plupart des hommes, dit-il, la plupart des hommes ont le tort de concevoir dans cette science, la géométrie, trois espèces de grandeur, la ligne, la surface et le corps. Il a déjà été dit en effet que la ligne, la surface ne sont pas conçues comme vraiment distinctes du corps. Ou comme distinctes l'une de l'autre. Mais si on les considère simplement en tant qu'abstraites par l'entendement, l'intellectus, elles ne sont plus, pour lors, des espèces différentes de quantité que l'animal et l'être vivant ne sont dans l'homme différentes espèces de substances. C'est incroyable cette analogie qu'il donne. Vous voyez bien l'analogie qu'il donne ici. Mais si on les considère simplement en tant qu'abstraites par l'intelligence, elles ne sont pas plus, pour l'or, des espèces différentes de quantité que l'animal et l'être vivant ne sont dans l'homme différentes espèces de substances. Animal et être vivant sont l'homme lui-même. C'est par l'abstraction, parce que là, il y aura des distinctions de raison résonante, par des distinctions de raison résonante que je distingue homme, animal et être vivant. C'est la même réalité. L'intelligence distingue par l'abstraction ces différents fonds. Bien pour lui, c'est la même chose. Pour les différentes espèces de la quantité. Oui. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'abandon complet des sensibles propres. On voit par le fait même comment chez Descartes, la quantité ramène à elle-même la substance et la qualité. N'est-il pas significatif que le père de la géométrie analytique qui ramène la qualité, la figure d'une courbe au calcul algébrique, soit précisément Descartes. tout le domaine physique chez lui devient quantitatif. Connaître le monde physique, c'est donc le mesurer, puisque la quantité n'est connue en elle-même que par la mesure. Il faut actuer le divisible pour le connaître. Et donc la quantité n'est connue que par la mesure. Toute la connaissance philosophique du monde physique par les qualités sensibles est éliminée et rejetée comme quelque chose de subjectif. Aussi bien Descartes déclare ne vouloir connaître le monde physique que d'une connaissance mathématique. Tout le monde physique n'est connu que par le voie de la mesure, donc une connaissance mathématique. Alors je vous lis ce passage dans les principes 2. J'avoue franchement ici que je ne connais point d'autre matière des corps, corps, des choses corporelles que celle qui peut être divisée, figurée et mue en toutes sortes de façons. C'est-à-dire celle que les géomètres nomment la quantité et qu'ils prennent pour objet de leur démonstration, et que je ne considère en cette matière que ces divisions, ces figures, ces mouvements, et enfin que touchant cela, je ne veux rien recevoir pour vrai, sinon ce qui en sera déduit avec tant d'évidence qu'il pourra tenir lieu d'une démonstration mathématique. Et pour ce qu'on peut rendre raison en cette sorte de tous les phénomènes de la nature, je ne pense pas qu'on doive recevoir d'autres principes en la physique, ni même qu'on ait raison d'en souhaiter d'autres que ceux qui sont ici expliqués. Je crois que ça ne va pas être plus clair. Le monde physique se ramène à la quantité. Et le corps se ramène à la quantité. Toutes les qualités se ramènent à la quantité. Il n'y a donc plus pour Descartes que la conscience du moi pensant et la connaissance mathématique de la quantité. Et cette simplification extraordinaire, hein, prophète du monde moderne. Le monde pensant, c'est la conscience. Et puis, en dehors de là, les sciences mathématiques. Et les sciences mathématiques, les sciences de la quantité. Une telle situation est très proche de ce que nous voyons constamment à notre époque, où la connaissance semble se réduire la plupart du temps à la connaissance phénoménologique, d'une part, donc la conscience, et la connaissance scientifique, d'autre part, la mensuration. Je crois que c'est très important de bien voir cette position de Descartes. Donc, il n'y a plus de philosophie. C'est la mort de la philosophie. Non seulement de la métaphysique, mais de la philosophie. Notons enfin que chez Descartes, comme chez Don Scott et Suarez, la notion d'infini joue un rôle très important. Chez Scott et Suarez, elle est la notion la plus parfaite et la plus simple. Chez Descartes, elle est même antérieure pour nous à la notion de fini. Je connais le fini par l'infini. Il a bien de la chance. Je sais pas si vous connaissez l'infini avant de connaître le fini. Moi, je connais le fini avant de connaître l'infini. C'est très important, ça, vous voyez. Ça classe tout de suite de perspective. Alors, il nous dit ceci. L'être, Clessel, la notion que j'ai de l'infini est en moi avant celle du fini. Pour ce que, de cela seul que je conçois l'être ou ce qui est, sans penser, s'il est fini ou infini, c'est l'être infini que je conçois. Qu'est-ce qui est contradictoire, c'est très joli. Mais je sais bien là-dessus, parce que ça c'est très très beau. La notion que j'ai de l'infini est en moi avant celle du fini. Pour ce que de cela seul je conçois l'être ou ce qui est, sans penser s'il est fini ou infini, c'est l'être infini que je conçois. Mais afin que je puisse concevoir un être fini, il faut que je retranche quelque chose de cette notion générale de l'être, laquelle, par conséquent, doit précéder. Et donc, l'être que je conçois en premier lieu, c'est l'être infini. Et comment Dieu est présent à la conscience. Alors, chez Kant, la quantité concept a priori, rendant possible les jugements d'expérience. Ça, c'est aussi très important. Chez Kant, la quantité concerne en premier lieu un des aspects de la fonction logique de l'entendement dans les jugements. Ceux-ci peuvent être universels, particuliers ou singuliers. Or, l'entendement, par les mêmes actes au moyen desquels il produit, dans les concepts, la forme logique d'un jugement, introduit aussi, au moyen de l'unité synthétique qui se trouve dans l'intuition en général, un contenu transcendantal dans ses représentations. Les contenus transcendantaux, ou concepts a priori, correspondant à la quantité des jugements, sont l'unité, la pluralité et la totalité qui constituent la classe des catégories de quantité. La troisième de ces catégories, la totalité, résulte de l'union des deux premières. La totalité n'est autre que la pluralité considérée comme unité, le tout. Qui prendrait une telle importance chez Hegel. Vous voyez, il est déjà présent ici comme la synthèse de la pluralité de l'unité, donc du multiple et de l'un. Vous voyez, c'est quand même très intéressant de retrouver le point de vue du multiple et de l'un et la synthèse du multiple et de l'un dans la totalité et le tout. Le schème qui permet l'application de ces concepts a priori au phénomène, le schème pur de la quantité est le nombre, qui est une représentation embrassant l'addition successive de l'unité. Or, rappelons-le, le schème qui doit être à la fois intellectuel, donc homogène à la catégorie, au concept pur, et sensible, homogène au phénomène, est une détermination a priori du temps. Dans cette perspective, le nombre n'est autre chose que l'unité de la synthèse opérée dans le divers d'une intuition homogène en général, et par le fait même que je produis le temps lui-même dans l'appréhension d'intuition. Enfin, les principes qui règlent l'usage des catégories de quantité sont les axiomes de l'intuition, en vertu desquels les phénomènes sont tous des grandeurs, et même des grandeurs extensives, c'est-à-dire en lesquelles la représentation des parties rend possible la représentation du tout. Donc, ce qui est intéressant, intéressant de voir, c'est la fonction a priori de la quantité qui permet de faire la synthèse du tout. Alors vous avez quantité et temps qui deviennent les deux grandes catégories qui permettent toute la représentation. On reconstruit, c'est ça qui est intéressant à voir, on reconstruit ce que représente une représentation. Dans les représentations, l'aspect de la quantité et du temps sont primordiaux. Nous allons tout de suite maintenant passer à l'étude philosophique de la quantité. Et je crois que ce qui est important à noter pour nous, c'est de voir comment le fini et l'infini ont pris par la quantité une place primordiale dans la philosophie. Parce que si vous regardez chez Hegel, je ne le vois pas avec vous, on voit combien l'infini devient quelque chose d'absolument primordial dans la dialectique. Comment pouvons-nous connaître la quantité ? C'est le problème qu'il faut tout de suite se poser. C'est très vrai, quand vous représentez quelque chose imaginativement, la quantité est tout de suite présente. De tout. Vous regardez une maison, vous fermez les yeux, vous la représentez. Dans l'ordre de la représentation, la quantité joue un rôle capital. Parce que toujours, c'est le tout. Et dans le tout, vous situez les parties. Et s'il n'y a pas le tout, rien vous représenter. Et la quantité joue un rôle de fulcrant. C'est vrai, quand vous regardez l'horizon, il n'y a pas de limite. C'est infini. Vous voyez, comme c'est très imaginatif tout ça. Quand je dis que l'infini est premier, c'est parce que c'est vrai. Je suis dans un univers dont je ne vois pas le terme. Si vous étiez en dehors de l'univers, vous verriez l'univers fini. Mais vous ne voyez pas le terme. Regardez l'horizon. Et au point de vue représentation, l'infini joue un rôle extraordinaire. Les étoiles. Vous ne voyez pas de limite. Donc, vous vivez constamment dans un monde de représentation. Et qui n'a pas de limite. Tout dépend de savoir si ne pas avoir de limite, c'est infini. Mais ça n'a pas de limite. Et puis vous tenez les choses dans votre main en les mesurant. Alors, la première approche de la quantité, c'est toujours le langage. Le langage est lié à la représentation. Langage implique toujours une représentation, une image, une icône. Le langage nous manifeste que parmi les divers attributs permettant de décrire les réalités physiques que nous expérimentons, il en est qui ne peuvent se ramener ni aux qualités, ni aux relations, ni aux mouvements. Certains attributs ont une signification irréductible à celle des autres et expriment quelque chose qui relève d'un autre domaine. On l'appelle quantité. C'est très curieux, vous voyez la différence avec la qualité. La qualité est immédiate. La quantité n'est jamais quelque chose d'immédiat. Les premières choses que vous touchez, contrairement à ce que dit Descartes, ce n'est pas du tout la quantité. Sur les couleurs. Le contact, c'est la chaleur et le froid en premier lieu. Puis après, la quantité. Et comme support, c'est pas premier. Et dans le langage, c'est la même chose. Dans une description, lisez n'importe quelle description, Balzac. Vous verrez que la quantité n'est pas première du tout. Quand vous regardez s'il fait beau ou s'il fait mauvais, est-ce que c'est la quantité qui est première? C'est la lumière. La lumière est bien plus directe que la quantité. C'est la lumière ou les ténèbres. Donc la quantité, dans le langage, n'apparaît jamais comme première. Soyez un tout petit peu attentif aux descriptions littéraires. Ou à votre simple expérience, puisqu'on ne fait plus attention. Et quand vous vous réveillez, vous dites « Ah, il fait jour !» Si vous n'avez pas mis votre réveil, ah, il fait jour, il est temps de me lever. Votre première perception, c'est la lumière. Ou c'est le son. Vous vous réveillez avec un tadama, l'alerte du voleur. Ça, c'est une manière de se réveiller. C'est le son. Et ainsi de suite. Vous entendez la pluie qui tombe. Essayez de comprendre un tout petit peu dans des descriptions et dans vos sensations. Nous disons par exemple que telle réalité possède telle grandeur, tel poids, qu'elle fait partie de telle série, qu'elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, un tout. Que signifie exactement de telle précision qui n'exprime ni la qualité, ni la relation, ni le mouvement. Ces attributs, grandeur, longueur, hauteur, poids, expriment les dimensions d'une réalité physique. Je crois que selon le langage, c'est bien ça. Ce qui est mesurable, les dimensions. Par où ces réalités sont mesurables, par où elles font partie d'un tout, et deviennent capable d'intégrer en elle-même d'autres parties. Vous situez quelque chose par la grandeur, par la longueur. Demandez au menuisier ce qu'il fait quand il construit une porte. Est-ce que la première chose est de regarder la qualité du ou de regarder tout de suite les dimensions? Certes, l'analyse du langage ne nous dit pas la nature de ces dimensions. Elle ne peut nous dire la nature de la quantité. Elle indique seulement que notre manière de connaître l'univers comporte une certaine modalité exprimant quelque chose d'irréductible à la qualité, à la relation, au mouvement, tout en ayant un lien profond avec la relation et le mouvement, et même avec la qualité. Car les qualités, comme les relations et les mouvements, se trouvent modifiées par la quantité. Vous voyez, réalité modale. C'est vrai. La quantité, c'est le domaine du conditionnement. C'est le domaine du conditionnement. On est conditionné par la pesanteur de son corps. Vous ne pouvez pas sauter comme vous voulez. On est conditionné par la grandeur de sa taille ou la petitesse. On est conditionné par la grosseur. Un petit tonneau. Ça roule. On est conditionné par ça. Et c'est vrai, ça conditionne énormément. C'est un conditionnement. C'est, rien à vous raccrocher. Donc, quelqu'un qui est trop saisi par le conditionnement sera sur la pente de l'angoisse. Et comment le moyen de lutter contre l'angoisse, ce sera justement de revenir aux qualités. La méthode Vitose. Revenir aux qualités, c'est échapper au conditionnement. C'est de remettre dans quelque chose qui est au-delà du conditionnement. Et donc c'est échapper par le fait même à l'infini. À ce qui est impossible. Parce que c'est comme un abîme. L'abîme, c'est l'infini. L'abîme est dans l'ordre de la représentation. Et alors, l'angoisse serait liée à la représentation d'infini. Il faut se poser la question, hein, parce qu'on cherche à découvrir dans le langage le point de vue de la quantité, ce domaine particulier de la quantité. Et on voit combien plus un être est conditionné, plus la quantité apparaît. Et plus la quantité est présente, plus elle est conditionnée. La lutte contre le conditionnement, c'est la lutte contre la quantité. C'est très curieux, ça. Mais c'est très vrai que la situation de l'homme dans un univers qui le domine partout, c'est une situation assez particulière. Heureusement que la lumière est là. La lumière nous permet de lutter de façon extraordinaire contre la quantité. Et quand vous ramenez la lumière uniquement à la quantité, c'est-à-dire au mouvement, alors vous perdez la possibilité de lutter contre le conditionnement. Parce qu'il faut quelque chose d'irréductible à la quantité pour lutter contre l'angoisse. Et contre le conditionnement. Vous voyez, tout le monde scientifique d'aujourd'hui, cette connaissance scientifique est une connaissance par le point de vue de la mesure. Donc il me met tout le temps en présence de la quantité, me conduit à l'angoisse. Je crois que dans la mesure où la culture devient une culture scientifique, c'est une culture angoissante. Important à saisir. Et on verra que seul l'art permettra de lutter contre la science. Mais un art qui n'est pas le cinéma et qui n'est pas le roman. Parce que l'art du cinéma demeure dans la quantité, les sensibles communs. Et le roman aussi. C'est pour ça que le roman et le cinéma ne luttent pas contre l'angoisse. Au contraire, conduisent à l'angoisse. Seul le domaine de la qualité propre lutte contre l'angoisse. C'est très très important, ça, au point de vue, pour nous, pour éviter d'être angoissé, quoi. C'est quand même important, ça. On a tous en nous un petit animal au fond de nous-mêmes, qui nous mène à l'angoisse. Tous, plus ou moins, mais tous. Alors faisons attention, luttons contre l'angoisse quand on peut lutter. Parce que quand l'angoisse est là, vous ne pouvez plus. Alors comprenez que vous appartenez à un monde angoissé qui risque toujours de vous angoisser. Et donc de vous attirer dans les sirènes de l'angoisse. Et vous luttez contre l'angoisse en revenant aux sensibles propres, c'est-à-dire aux qualités. Ça, c'est, je crois, très important de saisir ça dans le langage. Et de saisir ce que c'est qu'une culture de la quantité. Guénon avait senti ça d'une façon prodigieuse. Il est tombé dans première approche, le langage, deuxième approche, nos expériences ordinaires, pré-philosophiques, de la réalité sensible quantifiée. Alors là, c'est tout un domaine qui est très intéressant à explorer. Nos expériences du monde, alors c'est ce que je vous dis, on vit dans un monde qui nous dépasse, dont les dimensions ne peuvent pas être mesurées. Quand vous vivez au bord de la mer, au bord de l'océan surtout, parce que la Méditerranée c'est un peu différent, elle est très humaine la Méditerranée, tandis que l'océan, je ne vais pas dire qu'il est très divin, mais il a quand même une autre dimension, une autre. L'expérience quotidienne fait qu'on est plus ou moins sensible, chacun d'entre nous, aux qualités ou à la quantité. Autrement dit, on est plus ou moins éveillé aux sensations externes, ou au contraire, plus ou moins dévoré par l'imaginaire. Quand on commence à perdre contact avec le réel, au bout de 3 mois de noviciat, si on ne fait pas grande attention, on commence à déraper. Les pneus usent. Toujours les mêmes têtes devant nous. Si ça changeait tout le temps, ça irait. Au bout d'un certain temps, 3 mois, on les connaît, quoi. Ce même visage, la même tête, à peu près. De temps en temps, il y a un nouveau. Alors c'est la proie de tout le monde de le regarder. C'est une nouvelle tête. Vous voyez, il y a une usure dans la vie commune. Il y a une usure des qualités sensibles. En vase clos. Il faut voir les avantages et voir les inconvénients. Donc on ne serait pas juste. Et c'est évident que ces expériences en vase clos font que les sensibles propres tendent à disparaître, sauf quand il y a du beau soleil. Vous voyez, là, c'est déjà énorme d'être à la campagne et à la ville. Pas du tout la même domination. Il y a une lutte de l'homme contre le soleil. Dans la campagne, il est encore assez royal. Il mesure assez bien tout et remplit tout. La lumière. La lumière est quelque chose dont on a besoin pour lutter contre l'emprise imaginaire. On a besoin de ça. Sensible à ça, il faut comprendre ça, parce que dans la mesure où vous le comprenez, vous luttez. Dans la mesure où vous ne le comprenez pas, vous n'êtes pas sensible à ça, vous ne luttez pas. Et vous laissez les pneus user. Et vous savez, quand on laisse les pneus user, qu'est-ce qui arrive, hein? S'il n'y a pas un garagiste intelligent qui vous dit attention, vous allez éclater. Sur les pneus usent. Les garagistes du couvent ne sont pas assez attentifs. Pas ce d'ici, mais ce des voisins. Quand les pneus s'usent, ils adhèrent. On le sait bien. Il n'y a plus d'adhérence. Alors, faites la comparaison avec les sensibles propres et les sensibles communs. Les sensibles communs, dérapage. Et les sensibles propres, les sensibles communs, prennent le pas sur les sensibles propres par l'imaginaire. Je vous ai déjà dit ça à propos des rêves. Dans les rêves, tout est inversé. C'est extraordinaire, ça. sensibles propres prennent le pas sur les sensibles communs. Ça, c'est sûr. Le chaud, le froid, la qualité de la confiture, la qualité du pain, c'est les sensibles propres qui prennent le pas. Plus au petit déjeuner qu'au repas de midi. C'est curieux, ces trucs-là. Mais c'est comme ça, si on est un tout petit peu attentif. Voyez, sans faire de la psychologie, c'est simplement être présent à ce qu'on fait. Être présent à ce qu'on fait, c'est pas de la psychologie, hein. C'est vivre. On a les deux pieds sur terre. Vous voyez que dans les rêves, les sensibles communs prennent le pas sur les sensibles propres. Et plus on est fatigué, c'est un psychanalyste qui m'a dit ça. Psychanalyste freudien qui était très calé dans les rêves. Ça l'intéressait énormément. C'est toujours intéressant de voir la manière dont un psychanalyste analyse les rêves. Et là, moi, je regardais en philosophe. Alors, ils m'ont dit cette chose très curieuse, que quand vous êtes fatigué, dans les rêves, les sensibles communs envahissent tout. Et quand vous êtes moins fatigué, les sensibles propres viennent. Alors, c'est très intéressant. Parce que ça montre bien que quand on est très fatigué, l'imaginaire l'emporte. Et l'imaginaire fatigue. On est fatigué d'être fatigué. Et quand on est fatigué d'être fatigué, on sait ce que c'est. Tout vous agace. Il n'y a rien de plus fatigant que d'être fatigué. C'est vrai. Se double. Il y a toute une part imaginaire dans la fatigue. Une grande part imaginaire. Et c'est réel dans l'ordre de l'imaginaire. C'est réel dans l'ordre de l'intention. Ça, c'est sûr. Philosophiquement, ça ne peut pas être autrement. C'est l'imaginaire qui l'emporte. Dès que vous êtes éveillé, sensible propre. Alors, on est éveillé par les sensibles propres, on est éveillé par l'amour, pour la prière. C'est les sensibles propres. C'est quelque chose qui vous réveille, qui vous met au-delà. Vous voyez, l'emprise, c'est une chose extrêmement importante à concevoir, ça. Hein. Et il faut le concevoir quand on est de bonne humeur et quand on n'est pas trop fatigué. Faire la part de l'imaginaire et des sens externes. Et voir que l'imagination, c'est le domaine de la quantité. C'est le domaine du conditionnement. Or, vous êtes fatigué quand le conditionnement prend le dessus. Un être fatigué, c'est un être plongé dans le conditionnement. Un être non fatigué, c'est un être attiré par le bien et finalisé. Il n'y a rien qui repose plus que d'être finalisé. Qui repose en être finalisé. C'est pas la détente qui repose, c'est d'être finalisé. Des cures de finalisation. Ça c'est merveilleux. Alors à ce moment-là, vous dépassez le conditionnement, vous dépassez le domaine de la quantité. Mais l'imaginaire et la quantité, c'est très important de comprendre ça. Pour lutter contre tout le domaine de la connaissance mathématique. Domaine de la connaissance mathématique et des connaissances scientifiques modernes. C'est le domaine de la quantité. Si les connaissances mathématiques ne constituent pas pour le philosophe une approche particulière de la quantité, car la connaissance métaphysique de la quantité n'est pas une connaissance mathématique, métamathématique de la quantité. Elles mettent cependant en lumière, d'une manière unique, en le formalisant, ce domaine spécial de la quantité. Vous voyez, le mathématicien Formaliser la quantité, c'est la rendre qualitative. Le mathématicien rend qualitative la quantité. C'est très curieux, ça. Il métamorphose la quantité en la formalisant. Le contenu formel des connaissances mathématiques possède son originalité propre. Il n'est pas immédiatement adéquat au résultat et il n'est pas immédiatement adéquat au réel. Et pourtant, il n'est pas purement imaginaire. Très difficile à bien préciser le domaine des mathématiques, du point de vue de la connaissance mathématique et du contenu de la connaissance mathématique. Ils se fondent, la connaissance mathématique se fonde dans la réalité, mais sans l'exprimer telle qu'elle existe. Les remarques d'Aristote reprises par saint Thomas expriment quelque chose de fondamental concernant ce domaine. Sans doute Aristote et saint Thomas ne nous disent-ils rien du développement postérieur des mathématiques, mais ils regardent l'origine de la connaissance mathématique et sa spécificité propre. Et pour exprimer le fondement matériel, réel, de la connaissance mathématique, ils expriment le fondement. Et ça, je crois que c'est très juste que saint Thomas parlera pour la connaissance mathématique d'une matière intelligible. Et la matière intelligible, c'est la formalisation de la quantité. Et je crois que le domaine mathématique, c'est la formalisation de la quantité saisie dans les relations. Le domaine mathématique, c'est un domaine de relations possibles.